Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant, on est très heureux de vous retrouver pour votre podcast consacré à la Formule 1 et aujourd'hui on va parler F1 et endurance puisque vous le savez, le week-end prochain aura lieu la 90e édition des 24 heures du Mans. On fait fromage et dessert cette
complètement.
Semaine. Stéphane, ça te va ?
Oui, absolument.
Alors qu'on s'apprête à négocier la 8e épreuve de la saison, le Grand Prix d'Azerbaïdjan, on a couvert le tiers de la saison en Formule 1. Ça sera l'occasion pour Stéphane et moi de faire un premier bilan. Qui sont les gagnants et les perdants de ce début de saison de Formule 1? Mais avant cela, donc, comme promis, nous recevons deux invités exceptionnels cette semaine. Sébastien Buemi, triple vainqueur au Mans et qui tentera un quatrième succès au volant de la Toyota favorite. Et puis nous rejoindrons ensuite Nicolas Lapierre qui défend lui les couleurs d'Alpine avec pour objectif de déjouer les pronostics et de faire tomber le constructeur japonais. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, direction Le Mans. Et on rejoint le premier invité dans les fous du volant aujourd'hui. C'est un monsieur qui a remporté à 3 reprises les 24 heures du Mans. C'est évidemment Sébastien Buemi. Merci beaucoup Sébastien de nous rejoindre de nouveau dans les fous du volant. À chaque fois on passe un bon moment. Alors on revient chez Toyota et en ta compagnie.
Salut Sébastien.
Bonjour.
Bon, ça va le décalage horaire avec Jakarta puisqu'il y avait une course en Formule 1 ce week-end. C'est pas tout à fait la même ambiance.
Non, moi, je préfère la température ici, hein, pour être honnête.
Ouais.
Il faisait un peu chaud là-bas, mais ouais, hier, c'était un petit peu dur parce que bon, je suis arrivé à 11h30 et j'ai tout de suite roulé à 14h. Mais en soi, ça s'est bien passé. J'étais content de quand même pouvoir faire quelques tours. L'année passée, j'avais loupé le test day. Peut-être même que l'année d'avant, je l'avais aussi loupé. Donc, en fin de compte, c'était sympa de pouvoir faire quand même pas mal de tours hier, de découvrir un petit peu la piste, les petits changements. Donc, c'était sympa, quoi. Ça s'est bien passé.
J'aimerais bien savoir dans quel état d'esprit tu es, toi et l'équipe, parce que il y a eu, en fait, les 24 heures du Mans, c'est la troisième épreuve du championnat du monde d'endurance cette saison, et il y a eu deux abandons en cumulé hein, sur les deux premières épreuves, ouais. Une grosse sortie de piste à Sebring pour José María López, un abandon sur cause technique, et c'est malheureusement toi qui étais au volant à Spa. Dans quel état d'esprit vous êtes chez Toyota?
Moi, je suis un peu... Je suis un peu tendu pour être honnête parce que bon, ça nous est jamais arrivé ce problème-là et ça, je trouve que des fois on s'habitue un petit peu à ce qui est pas trop de problèmes. C'est vrai que l'année passée on termine plus ou moins, je pense même toutes les courses avec les deux voitures. Donc on oublie que voilà, la fiabilité ça reste malgré tout, ça peut être problématique même si il n'y a pas eu de problème depuis longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Et là, ben voilà, on a connu un problème technique sur la numéro 8, donc ma voiture à Spa, qu'on n'avait jamais eu. Et donc, ça fait peur parce qu'on se dit, bon, ben, il va peut-être y arriver un truc comme ça en course. Et on sait que, voilà, un petit problème technique et la course est perdue. Donc, après, bon, ben, j'essaie de me concentrer sur moi. Je me dis que de toute façon, voilà, moi, je ne peux pas forcément influencer ces choses-là. Donc, voilà, je me concentre sur ma performance.
Alors, le résultat de ce test, concrètement, c'est meilleur temps pour la Toyota numéro 7, 2 dixièmes devant une Glicanos et 2,5 secondes devant l'Alpine. Le but pour Toyota, c'était vraiment valider le package aéro et puis apprendre le comportement des pneus sans chasser vraiment le chrono, c'est ce qu'on a vu. Alors, vous en aviez combien sous la pédale réellement chez Toyota?
C'est dur à dire parce que, bon, alors déjà, personne ne peut faire un tour clair. Il y a tout le temps beaucoup de trafic. Les voitures sont relativement fiables. Donc, les 60 et quelques voitures roulent quasiment non-stop. Ce qui fait qu'avec les amateurs et tout, on n'a pas du tout un tour de libre. Donc déjà là, on aurait pu, je pense, aller plus vite déjà si on avait pu aligner les trois secteurs. Après, c'est très difficile à dire parce que nous, l'important pour nous, c'est d'être vite en course, c'est d'être vite sur la distance, c'est d'avoir le moins de dégradation possible. C'est pas forcément d'aller faire juste un chrono pour la qualif. Donc, on met pas beaucoup d'énergie, on n'en a jamais vraiment mis sur la qualif. On en met vraiment un maximum sur le rythme de course, la dégradation, la compréhension, parce que on veut faire trois relais, quatre relais. Est-ce que les pneus tiennent pas? On a quand même des dimensions de pneus qui sont différentes de l'année passée. On a une voiture qui est légèrement différente parce qu'il fallait la réhomologuer avec ce petit changement qu'on avait eu sur les pneus. Donc, on a voulu quand même juste être sûr que les choses se passent bien. Après, il y a quand même la BOP qui est très différente de l'année passée. L'année passée, on est arrivé ici avec un système hybride qui pouvait se déployer à partir de 120 km/h.
Là, c'est
Cette année, c'est 100,
190, c'est
voilà,
ça?
190. Là, c'est sûr que pour moi, ça sera impossible de faire les temps de l'année passée. Ça, c'est clair et net.
Alors, il y a aussi un changement par rapport à l'année passée. C'est le troisième pilote dans cette voiture, Ryo Hirakawa, qui vous rejoint. Alors, jusque-là, si on reprend les deux derniers coéquipiers qui t'avaient rejoint, il y avait Brendan Hartley, qui était double, qui était vainqueur déjà des 24 heures du Mans, qui était simple vainqueur et qui a gagné avec toi. Et puis, un petit peu plus tard, il y a eu Fernando Alonso, que tu as accueilli aussi dans l'habitacle de ta Toyota. Ryo Hirakawa, il a beaucoup moins d'expérience. Ça sera la troisième fois qu'il fait Le Mans, la première fois en catégorie reine. Comment est-ce qu'on gère l'arrivée d'un pilote, alors même s'il a beaucoup d'expérience en Super GT et en Super Formula au Japon, hein, c'est un très très bon pilote, mais forcément la façon de l'accueillir, ça doit être très très différent, et de le gérer pour cette épreuve de 24 heures.
Ouais, bon, après Fernando, il a aussi découvert quand il nous a rejoint ici, mais non, je pense que c'est un très bon pilote. Comme tu le dis, il est très très bon. Il est même en tête du championnat de Super Formula là actuellement au Japon. J'essaie de l'aider le mieux que je peux. Donc hier, on lui a donné quand même plus de tours que ce que nous on a fait. Il a fait passer 50 tours, si je me trompe pas hier, donc c'est quand même conséquent. On essaie de le mettre dans les meilleures conditions possibles, simplement pour qu'il prenne confiance. Je veux dire, il a fait tous les tests avec nous, il connaît la voiture, il sait comment les choses vont, il est rapide, il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est juste qu'il a besoin de faire des tours pour sentir le trafic. Le trafic, ça n'a rien à voir. Quand on roule tout seul en test ou quand on roule avec 60 voitures, se sentir est-ce que je peux y aller, est-ce que j'y vais pas, est-ce que. Pas prendre trop de risques, mais d'un autre côté, en prendre quand même assez parce que sinon on perd trop de temps. Donc ça c'est. Il a besoin de faire des kilomètres et c'est ce qu'on essaie de faire. Après, on essaie de lui donner le plus on va dire, de conseils possibles. Mais après, voilà, il fait son truc, il connaît. Je ne vais pas lui expliquer comment conduire. Mais jusqu'à maintenant, les choses se passent bien. Il a fait un super boulot à Sebring. Malheureusement, il n'a pas pu rouler à Spa parce qu'on est tombé en panne. Donc, on verra ce week-end prochain.
Alors chacun a un rôle bien déterminé dans le trio. On sait que tu aimes beaucoup prendre les départs, en tous les cas tu en as pris souvent. On sait que c'est une responsabilité énorme. Il y a beaucoup de procédures à respecter dans ce tour de formation avant le départ, beaucoup de précautions à prendre aussi. Il faut être un pilote avec beaucoup d'expérience et puis il faut aimer ça certainement aussi pour prendre les départs. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ce moment qui... Ces minutes qui précèdent le départ et qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, je dirais, pour réaliser un bon départ, même si on sait que l'année dernière, ça s'est pas très bien passé, mais bon, ça c'était une circonstance extérieure.
Ouais, alors bon, je dirais qu'en général, il y en a beaucoup qui aiment bien faire la qualif. Après, je dirais que les pilotes, ils se battent pas pour prendre le départ. Pourquoi? Parce que prendre le départ aux 24 heures du Mans, c'est beaucoup plus de travail. Ça veut dire, en général, faire le warm-up le matin à 8 heures. Nous, en général, maintenant, les pilotes, il n'y a que celui qui prend le départ qui roule, donc les autres ne roulent pas. Il y en a certains même qui restent à l'hôtel dormir. Dis que moi, je viens là à 8 heures. Ensuite, c'est toute la procédure, c'est amener la voiture sur la grille. C'est voilà, c'est comme si la course, elle démarre 5 heures avant les autres, quoi. Donc, c'est quand même beaucoup plus de stress de ce côté-là. Après, ouais, il y a pas mal de procédures à faire. Et puis c'est vrai que moi, maintenant, j'ai l'habitude, je fais tous les départs. Donc j'ai bien l'habitude avec ça. Alors, la voiture de cette année, la Hypercar, elle est un peu moins compliquée que les LMP1 d'époque. Donc de ce côté-là, c'est un petit peu plus facile. Mais il y a quand même pas mal de petites procédures à faire pour être sûr qu'on ne prend pas de pénalité. pour être sûr qu'on ne fait rien qui endommage la voiture ou qui va nous poser problème après coup. Et ça, c'est toutes des sortes de conditions que ben, les autres pilotes, ils les découvrent jamais en fin de compte. Voilà, j'ai pris l'habitude de faire le départ. Brandon a pris l'habitude de faire la qualification. On va continuer encore un peu comme ça. Et puis après, on verra bien si on décide de changer, faire évoluer un petit peu les choses dans le futur. Mais c'est vrai que. Et puis après, le départ, c'est quand même beaucoup de pression parce que si tout se passe bien, c'est normal. Et puis si ça se passe mal, alors là, tu te fais pas de la publicité, quoi.
Il n'y a que des coups à prendre. Stéphane.
On se transpose à l'arrivée dimanche des 24 heures du Mans. Il y a simplement deux constructeurs qui ont réussi à remporter cette épreuve mythique 5x8. Au moins, c'est Audi et Porsche. Et Toyota pourrait rejoindre ce club. Et puis toi aussi, avec trois victoires déjà, tu pourrais intégrer la cour des très très grands, des légendes des 24 heures du Mans avec quatre victoires déjà. Henri Pescarolo, Olivier Jean-Debien et Yannick Dalmas. Et avec 5, 6 et 9 victoires, on a Derek Bell, Franck Biella, Emmanuel Epiro, Jacques X et puis Tom Christensen, Monsieur Le Mans. À 33 ans, remporter déjà 4 fois les 24 heures du Mans et se retrouver dans ce club des très très grands, qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que c'est comme perspective et aussi pour Toyota?
Ah, je sais pas trop honnêtement, je me suis pas posé la question. Je sais à quel point c'est difficile de gagner et j'aime pas trop me projeter comme ça parce que je me dis que c'est tellement dur, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, il faut que tellement toutes les étoiles s'alignent que ouais, j'aime pas trop y réfléchir. Mais je dirais que pour Toyota, ça serait fantastique. C'est vrai qu'on est là depuis longtemps, qu'on essaie de gagner depuis longtemps. Maintenant, les choses se passent bien. On a passé vraiment tout près de gagner la course plusieurs fois. Donc j'espère voilà qu'on arrivera avec notre expérience, avec les choses qu'on a apprises maintenant sur les dernières 11. Ce sera ma 11e participation. Donc ça fait quand même un moment qu'on est là. Et puis, ça serait super pour l'équipe de pouvoir gagner 5 fois d'affilée, ça c'est sûr. Après, pour moi, oui, bien sûr, si j'arrive à gagner une 4e fois, ça serait extraordinaire.
Ça commence à faire à rentrer dans un très très joli club. Alors, tu disais que tu avais du mal à te projeter. On va quand même te demander une petite question concernant l'avenir, parce qu'on parle beaucoup de tous les constructeurs, les autres constructeurs qui vont revenir en endurance. Et on salue d'ailleurs l'opiniâtreté de Toyota qui est restée toutes ces années. Il y a des grands constructeurs qui vont revenir en endurance. Nous, on aimerait bien savoir côté pilote, qui tu aimerais bien affronter en tant que pilote dans les prochaines années. Est-ce que se retrouver en piste face à un Lewis Hamilton, face à un Max Verstappen, face à un Charles Leclerc, ça aurait une saveur particulière pour toi? Est-ce qu'il y en a un autre éventuellement, un nom que tu pourrais nous donner de pilote que tu aimerais bien voir défier chez toi quelque part aux 24 heures du Mans?
Bah, c'est dur à dire. Après, c'est vrai qu'avec l'arrivée de Ferrari, je sais que Charles, il a envie de faire. En tout cas, j'ai cru comprendre qu'il avait envie de faire les 24 heures un jour. Max aussi, ça, je sais qu'il a envie de les faire. Après, je crois pas qu'Hamilton est intéressé par les 24 heures, mais disons, ça serait super d'avoir quelques pilotes de F1. Je pense que ça serait, avec tous les constructeurs et même certains constructeurs, bon, comme Ferrari, qui sont présents en Formule 1 et au Mans à partir de l'année prochaine, ça serait une super opportunité, une bonne plateforme pour essayer de faire la course. Après, faudra voir. Maintenant, le calendrier F1 est extrêmement chargé, donc rajouter, honnêtement, Spa Le Mans, parce qu'il faut quand même faire Spa avant de venir ici. Ça risque d'être compliqué, mais c'est sûr que s'il y a des pilotes F1 qui venaient faire les 24 heures, je pense que ça serait bien pour eux, pour le WEC, pour l'endurance, pour les 24 heures, ça serait super pour tout le monde.
Et il n'y a pas un pilote que tu aimerais bien voir en te disant lui, j'aimerais bien voir ce qu'il vaut au milieu de la nuit, sous la pluie. Tu nous avais parlé la dernière fois que tu étais venu finalement de voir le spectacle qu'avait fait Fernando Alonso. Est-ce qu'il y en a un qui aurait la trempe de l'espagnol pour toi?
Bah, je pense que Max serait assez incroyable. C'est vrai qu'il est très talentueux. Il roule quasiment. Il a toujours été rapide dans toutes les voitures dans lesquelles il a roulé. Moi, je pense que ça serait fantastique pour lui, pour le sport en général. C'est sûr que si un jour on peut l'avoir en 24 heures, ça serait fantastique. Donc, je dirais Max, si vraiment il fallait
Et
donner
dans
un
une Porsche spécialement, parce qu'on sait qu'il leur tourne autour en tant que motoriste en Formule 1. Donc ça crée des connexions.
Bon, eh ben on va pas insister parce que Toyota nous avait donné quelques 10 minutes, je crois, avec toi, Sébastien. On va respecter parce que c'était vraiment très très sympa de nous faire une petite place là pour les fous du volant. On sait que l'actualité, là, la semaine des 24 heures du Mans qui débute est très très chargée, donc on va pas abuser. Merci beaucoup, Sébastien,
merci
de nous avoir rejoint.
Et on vous souhaite une super course.
Ouais, une belle semaine et une belle course. Merci.
Ok, merci, à bientôt.
Salut. Alors, on quitte maintenant Sébastien Buemi, qui nous a fait l'immense plaisir d'être avec nous dans les fous du volant. Et on va prendre la direction de l'équipe Alpine, où on va retrouver Nicolas Lapierre, qui lui est quadruple vainqueur des 24 heures du Mans en catégorie LMP2. Évidemment, il court après la victoire en catégorie Rennes. Bah, on prend la direction de chez Alpine. C'est parti, Nicolas Lapierre nous reçoit. Et par la magie de la technique, on se retrouve en compagnie de Nico Lapierre qui est au Mans. Bonjour Nicolas, merci de nous recevoir.
Salut à tous.
Merci infiniment.
Avec plaisir.
D'abord, on va peut-être faire les présentations pour ceux qui ne te connaissent pas encore. C'est ta 15e participation aux 24 heures du Mans, il me semble, hein, Nico Lapierre. 4 victoires en catégorie LMP2. Deux podiums au classement en général en catégorie Rennes, un podium avec Toyota, c'était il y a quelques années, puis un podium l'année dernière avec Alpine. On est ravis de te recevoir de nouveau dans les fous du volant. Au lendemain de cette journée test, où c'est une Toyota qui a fait le meilleur temps, et l'Alpine qui roulait a fait le 7e temps à 2,5 secondes du chrono de référence. Nico, on va pas tourner autour du pot. Est-ce que c'est inquiétant ou pas ?
Inquiétant, non. On sait que ce circuit ici des 24 heures, il correspond bien plus à la Toyota qu'à notre Alpine, malheureusement. Ça a déjà été le cas l'an dernier et on se retrouve dans cette situation où voilà, ils sont un peu plus rapides que nous, significativement plus rapides que nous, même à la journée test. Maintenant, voilà, on va pas lâcher l'affaire. Le Mans, c'est pas seulement la vitesse de pointe, mais aussi la fiabilité, la régularité, l'autonomie, la gestion des pneus. Donc ce sera pas une course facile, ça c'est clair. Mais on se prépare. On savait qu'on allait être un peu en retrait. On était un peu plus en retrait qu'escompté à la journée test. Maintenant, il faudra voir en condition de course, parce que une journée test, ça reste une journée test. Ce circuit des 24 heures, il est utilisé vraiment que pour cet événement, donc c'est assez particulier. Puis la piste, elle est vraiment très très sale en début de... C'est une route nationale pour 80% de la piste, hein, donc elle est très très sale au début de la journée test. Elle évolue tout au long de la journée, donc les conditions changent et c'est difficile de faire un point précis, disons, des performances après cette journée. Mais malgré tout, on est clairement en retrait. Ouais.
Est-ce qu'il y a un petit manque de Vmax pour résumer globalement cet écart ? On a beaucoup parlé de ça.
Je rappelle les valeurs, hein, c'est 337 km/h en Vmax pour les Toyota et les Glickenhaus. L'Alpine a été flashée à 325 km/h, il y a 12 km/h d'écart. Et en gros, l'Alpine, elle a une Vmax qui est l'équivalent des meilleurs en LMP2. Est-ce qu'il n'y a pas là un talon d'Achille ?
Non, mais clairement, c'est notre problème. On sait que notre voiture, elle est plus légère, elle est un peu plus performante dans tout ce qui est virage sinueux, enchaînement rapide, mais en ligne droite, clairement, on n'est pas aussi rapide que les Toyota ou même que les Glickenhaus. Donc, c'est clair que sur un circuit comme Sebring, en début d'année, on a pu faire un super résultat. À Spa, c'était un peu plus difficile. Et ici, clairement, la voiture ne correspond pas aussi bien au circuit que peut le faire une Toyota. Et ça, on en est conscient, on en était conscient avant de venir, c'était clair. Maintenant, voilà, c'est pas pour autant qu'on va baisser les bras et lâcher l'affaire, quoi. On est en tête du championnat, on a une super équipe derrière nous, une voiture qui est fiable, des bons équipiers, donc on va tout donner, on va essayer de faire un bon résultat quand même ici. Ouais.
Bah justement, on se demandait quels étaient les principaux atouts de l'Alpine, de cet équipage dont tu fais partie. Là, tu les as évoqués rapidement. C'est quoi en fait la grande force que vous pouvez mettre vous en avant face aux Alpines et face aux Glickenhaus ?
Oui, on est une plus petite équipe. C'est seulement la deuxième année d'Alpine dans la catégorie Rennes. Donc c'est sûr que par rapport à Toyota, on a les petits poussets, quoi. Eux, c'est vraiment les favoris. Ils ont gagné la plupart des éditions de ces dernières années et puis ils arrivent ici en force avec deux voitures, des équipages expérimentés. Mais nous, ce qui fait notre force, c'est notre petite équipe. On est vraiment soudés les uns les autres et on est prêt à déplacer les montagnes comme on a pu le faire lors de la première course de l'année où voilà, l'équipe a remporté sa première course en catégorie reine. Donc ça, c'était un peu une étape importante pour l'équipe, clairement. C'était ce qui nous a un peu manqué l'an dernier. On a couru après toute la saison dernière et là, dès le début de saison, on a réussi à s'imposer à Sebring. Et ça nous a amené un peu de confiance. Ça nous a aussi prouvé que l'équipe était capable de le faire. Et j'espère qu'on va réussir à répéter un exploit de la sorte ici, bien que les conditions sont moins favorables. Après, Le Mans, voilà, c'est ce qui fait sa magie aussi. C'est une course qui est terriblement difficile. Il peut se passer plein de choses. Il y a quatre catégories, beaucoup de déplacements, beaucoup de trafic, des conditions qui peuvent changer la nuit, le jour. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, il faudra être là, il faudra être à l'affût et essayer d'être le plus proche possible des Toyota.
Alors, avant que Stéphane te pose la question suivante, tu mentionnes le championnat du monde d'endurance. Vous avez effectivement, avec André Negrao et Mathieu Vaxivière, remporté la première épreuve qui était à Sebring. Vous avez pris la deuxième place aux 6 heures de Spa et vous êtes en tête avec 57 points au total. Ça veut dire 18 points d'avance sur vos plus proches poursuivants, qui ne sont pas des concurrents d'ailleurs de chez Toyota, hein. C'est Olivier Pla et Romain Dumas qui sont pilotes chez Glikkonos. Voilà, pour resituer un petit peu les débats. Stéphane.
J'allais quand même mentionner le gros point de l'Alpine, c'est sa fiabilité. C'est une voiture qui tourne comme une horloge depuis un an et demi.
Oui, c'est vrai qu'on a réussi à terminer toutes les courses, on n'a connu aucun problème de fiabilité. Et aujourd'hui, c'est clairement notre force. Face à Toyota, voilà. Bon, après l'an dernier, ils ont quand même réussi à faire la course sans problème. La configuration était un peu différente l'an dernier parce qu'ils avaient vraiment une telle avance par rapport à nous en termes de performance, en termes d'autonomie, qu'ils ont fait une course un peu tranquille, quoi. Et c'est vrai qu'au Mans, la course n'était pas du tout la même si vous êtes sous pression ou si vous êtes tranquille, quoi. Et malheureusement, l'an dernier, on n'a pas réussi à être proche d'eux, donc ils ont fait une petite course qui s'assimilait plus à une balade qu'une course, et du coup ils ont réussi à remporter la course l'an dernier assez facilement. Maintenant, cette année, on veut essayer de les mettre un peu sous pression, même si on reste outsider, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit au contact et essayer d'appliquer un peu de pression sur eux pour les pousser à l'erreur, parce que les pilotes, s'ils ont besoin d'imprimer un rythme plus important, forcément ils prennent plus de risques dans le trafic, ils vont prendre plus de vibreurs, ils vont endommager plus la mécanique. Et là, on peut se retrouver face à des opportunités et puis essayer de les saisir.
Alors, est-ce que c'est pas difficile quand même de les mettre sous pression, sachant que vous jouez à 1 contre 2, et en termes de stratégie, c'est plus difficile d'être agressif quand on n'a qu'une voiture?
Alors nous, l'avantage qu'on a, comme on a parlé tout à l'heure, c'est la fiabilité. Nous, on sait que la voiture, elle est fiable, on sait qu'elle va tenir, et on sait qu'on va attaquer du début à la fin et puis qu'elle va tenir le coup, quoi. Toyota, ils ont été quand même sujets à un petit problème d'hybride à Spa. Leur voiture, elle est quand même un peu moins éprouvée que la nôtre, on va dire. Et du coup, ils sont certainement un peu moins sereins sur ce qui est la fiabilité.
Aujourd'hui, si on se dit que dans le schéma, dans l'équation que vous avez à résoudre, si les deux Toyota ont un petit pépin, qu'elles passent un quart d'heure, 20 minutes au stand, est-ce que vous, ça vous fait vraiment rentrer dans le match? Vous êtes persuadé d'avoir une vraie chance de victoire?
Alors, il faudra voir le rythme la semaine prochaine, quoi. C'est un peu ça la question. En étant à moins de 2 secondes, oui, s'ils perdent 15 minutes au stand, c'est clair qu'on est de retour dans le match. Ça, c'est évident.
Là, comment ça va se passer? Parce qu'on a vu qu'il y a eu donc une nouvelle balance de performance qui a été éditée avant le début, donc le début des essais. On voit qu'il y a cette différence de 2 secondes et demie. Effectivement, chez Toyota, il y a eu deux abandons, hein, sur les deux premières courses de la saison, avec une grosse sortie de route à Sebring, un problème qui a provoqué l'abandon à Spa. Et il y a aussi les Glikkonos. On a beaucoup parlé de Toyota parce qu'évidemment, ce sont les grands favoris de nouveau pour cette édition 2022. Est-ce que du côté de chez Alpine, avec Philippe Sino, vous vous méfiez quand même de Glikkonos ou vous vous dites de toute façon, il faut battre les Toyota, il faut commencer par ça, puis on verra ensuite où on en est quand on sera devant?
Non, clairement, l'équipe à battre, c'est Toyota, ça, il ne faut pas se tromper de bataille, mais la Glikkonos, oui, ils sont dans le match. Ils sont en termes de performance très très proches des Toyota, voire même un poil mieux de temps en temps. Donc ils peuvent être là. Après, en termes d'expérience, ils sont beaucoup plus limités. Ils sont un peu moins rapides aux arrêts au stand. En stratégie, on a vu depuis le début de l'année qu'ils sont un peu moins affûtés que Toyota. Donc je dirais que voilà, ils peuvent faire une belle course, hein. Ils peuvent passer au travers et faire une belle course. course et puis être là. Mais la probabilité qu'il fasse une course parfaite, je pense qu'elle est quand même beaucoup moins importante que Toyota avec deux voitures et puis toute l'expérience qu'ils ont.
Alors, en fait, est-ce que l'équation a un petit peu changé par rapport à l'année dernière? Vous nous l'avez dit. Chez Alpine, on a aussi parlé de beaucoup de petites améliorations sur le plan technique et opérationnel. Est-ce que vous avez un ou deux exemples à nous citer pour dire que Alpine est encore mieux préparée que l'année dernière?
Oui, alors bah, typiquement l'an dernier, quand on est parti aux 24 heures du Mans, il s'est mis à pleuvoir juste avant le début de la course. Et nous, c'était la première fois qu'on roulait avec cette voiture sous la pluie, quoi. Donc, on avait par exemple un traction control qui n'était pas prêt. Et du coup, j'ai fait une petite erreur, moi, à la sortie d'Indianapolis. On a fait un tête à queue, on a perdu tout de suite une trentaine de secondes. Et ça nous a décalé. Et justement, bah, à cause de ça, on n'a pas pu appliquer cette pression qu'on voulait mettre sur Toyota l'an dernier. Là, cette année, on a fait des essais dans toutes les conditions, sous la pluie, forte température, température froide. On a balayé beaucoup plus de cas en termes de stratégie. Et du coup, on arrive beaucoup plus près, c'est sûr. L'an dernier, comme je dis, c'est la première année de l'équipe dans cette catégorie Rennes, qui est quand même bien différente de la LMP2. Alpine, c'était vraiment la référence en LMP2 avec trois victoires aux 24 heures du Mans, des titres de champion du monde. Donc l'équipe, elle avait un peu tout gagné en LMP2, mais le passage à la catégorie Rennes, il est quand même gros. C'est une grosse marche, quoi, en termes de gestion, de nombre de personnel. C'est une voiture qui est beaucoup plus technique et accomplie. Donc voilà, il a fallu faire ça l'an dernier. L'an dernier, on s'occupait de faire rouler la voiture, d'essayer de faire au mieux, et puis on a fait une saison assez solide, mais disons qu'on n'a pas vraiment optimisé toutes les petites choses. Et là, cet hiver, l'équipe s'est vraiment attardée à ça, à optimiser la voiture, tous les petits détails en termes de stratégie, d'électronique, de technique. Et on est arrivé à la première course avec une voiture beaucoup plus prête, une équipe plus mûre, plus mature et prête à aller jouer devant. Hein.
Là, évidemment, on le dit, on le répète, c'est Toyota qui est favori, mais finalement, à t'entendre, Nicolas, on se dit que bah, voir un équipage tout en bleu sur la première marche du podium dimanche après l'arrivée, c'est pas aussi délirant que ça. Tu y penses le matin en te rasant, même si t'es un peu comme moi, tu te rases pas trop de près non plus.
J'y pense tous les matins, ça fait maintenant, je sais pas, depuis 2007 que je fais Le Mans. Et c'est vrai que bah, quand j'ai décidé de passer à l'endurance, avant j'étais très axé monoplace et Formule 1. Et quand j'ai vu un peu ce rêve se fermer, que je me suis dirigé vers l'endurance, bah, depuis ce jour-là, bah, je pense qu'à ça, quoi. Enfin, c'est cette victoire au général qui me fait vibrer, qui me fait rêver. Et voilà, j'ai été plusieurs fois en position de l'accrocher. Et puis finalement, ça s'est toujours mal goupillé. Après, je suis passé dans la catégorie LMP2, où là, au contraire, j'ai eu beaucoup de réussite, beaucoup de chance, de belles équipes, de beaux équipages. Et j'ai eu la chance de le gagner 4 fois, ce qui paraît assez incroyable. Et là, maintenant, de retour dans la catégorie Rennes, évidemment que mon rêve, ça serait de m'imposer puis de faire retentir la Marseillaise. Voilà, après, on reste humble, on sait qu'on n'est pas favori. Mais malgré tout, l'équipe a, comme j'ai dit, a beaucoup progressé, elle a beaucoup grandi et elle est mieux préparée à relever ce challenge.
Alors vous êtes trois dans l'équipe, c'est-à-dire que chacun fait un petit peu des concessions les uns les autres. Qu'est-ce que vous faites pour arriver sur un setup commun? Et d'ailleurs, quel est l'enseignement de l'édition précédente aux 24 heures du Mans sur les réglages, sur la coordination, la façon de travailler, qui fait que vous êtes peut-être mieux cette année? Et puis, est-ce que les rôles sont déjà déterminés? Qui prendra le départ? Qui chassera l'hyperpôle et qui fera peut-être le. Alors, je ne sais pas, ça, c'est le dernier relais. Est-ce que les rôles sont déjà un petit peu répartis? Est-ce qu'il y en a qui préfèrent même peut-être rouler de nuit?
Alors, les rôles, oui, ils vont être répartis par Philippe cette semaine. On a un briefing de course demain, où voilà, clairement, on va dire un tel pilote fera la qualification, l'hyperpôle, qui prendra le départ. Après, le dernier relais et la nuit, on est tous à même de rouler, donc c'est plus la stratégie qui va nous emmener sur tel ou tel pilote. Sachant qu'au moins, c'est très difficile de faire un timing précis parce qu'on a toujours un safety car qui va s'immiscer au milieu de la course. une slow zone, un full coursier low, et puis ça va tout décaler en quelque sorte. Donc on a un plan qui est établi au début de la course, mais évidemment que ce plan est mis à jour et puis il peut bouger d'un côté comme de l'autre. Donc nous, en tant que pilote, on doit être prêt à rouler la nuit, le jour, le petit matin. Et voilà, après c'est clair qu'en tant que pilote, il y a des relais qui sont plus sympas que d'autres. Celui qui part à 2h30 le matin, il est toujours pas très chanceux, mais il en faut bien qu'il le fasse. Donc voilà, après, il y a le relais du. Pardon,
Ah,
le
et oui,
relais
on est en direct, hein, ça sonne.
du.
Vas-y,
Désolé.
vas-y, coupe.
Désolé.
Non, pas de
On a le
souci.
relais du lever du jour qui est assez extraordinaire parce que c'est vrai que là, les températures sont fraîches, la visibilité est bonne. Il y a généralement un peu moins de trafic parce qu'il y a quelques voitures qui ont déjà abandonné. Donc là, c'est assez magique. Il y en a un qui est très difficile. C'est celui du coucher du soleil, ici aux 24 heures du Mans, quand on se dirige vers Indianapolis. C'est juste terrible, quand on voit vraiment rien, on a le soleil en pleine face et on rentre dans un virage à 300 km/h et on peut pas vraiment se cacher du soleil. Donc voilà, il y a des relais qui sont plus sympas que des autres. J'ai eu la chance, moi, de prendre beaucoup de départs ici aux 24 heures du Mans, ce qui est toujours un privilège et aussi en
Une
quelque
charge.
sorte un peu une pression supplémentaire. Voilà, parce que on sait que Le Mans, c'est le travail de toute une année, de toute une saison, de toute une équipe. Et puis, voilà, il peut s'anéantir en une fraction de seconde. Et voilà, et au départ, il y a toujours un risque qui est un peu plus important qu'une fois que la course est lancée. Donc, voilà, c'est un peu une charge, mais c'est toujours un honneur et un privilège d'avoir la chance de prendre le départ aux 24 heures.
La dernière question, le dernier relais nous
Oui.
concernant, c'est Stéphane qui te la pose.
Alors, cette
Ouais,
année,
ben voilà, le
c'est.
dernier relais, c'est vrai que ça
Non,
dépend
non, non,
comment
attends,
la course se déroule. Ah,
c'était pas la
pardon.
question, c'est lui qui te pose la question.
Oui,
Ah, c'est ça, c'est ton
vous êtes
dernier
dans une
relais.
dynamique de préparation de l'arrivée d'Alpine en 2024 avec la LMDH, en fait, et je voulais savoir s'il y avait déjà des synergies qui étaient en place et qui arrivait de plus en plus avec Enstone, avec l'équipe de Formule 1, en opérationnel, des choses pour vous aider.
Tout à fait. Alors là, la synergie, elle est beaucoup plus importante. Ce nouveau programme LMDH, il est clairement fait avec Alpine, et Alpine est vraiment plongée dedans. Et c'est une voiture aussi qui utilisera un système hybride. Donc il y a des synergies qui sont beaucoup plus faciles avec la Formule 1 que la voiture actuelle qui était déjà dessinée. Là, on part d'une feuille blanche. L'équipe voilà, va s'appuyer sur le savoir-faire de Viry pour tout ce qui est moteur. Ils vont être aidés pour tout ce qui est châssis par Enstone. Donc là, il y a une vraie, voilà, une vraie synergie et ça fait plaisir à voir. On a d'ailleurs pas mal de gens de Viry qui sont là avec nous ce week-end et il y a déjà une vraie relation qui est en place. Et voilà, la voiture devrait rouler déjà l'année prochaine. Et puis 2024, c'est la grande échéance avec ce nouveau proto. Et voilà, il faudra être fort parce que la catégorie va être très étoffée. Mais on est ravis. Enfin, moi, je suis un grand fan de l'endurance et de voir tous ces constructeurs qui reviennent, c'est assez magique qu'on ne réalise même pas vraiment, quoi. On a vu la BMW ce matin. Enfin, on a l'impression que toutes les 2 semaines, il y a une nouvelle voiture
Ben
qui est
oui,
présentée. C'est
la
assez
semaine prochaine, il y
incroyable.
aura la Cadillac qui sera présentée aussi.
Ouais, c'est fou, c'est complètement fou. Et on attend la Ferrari, on a vu la Porsche. Enfin, c'est assez incroyable, quoi. Et je pense qu'on ne réalise pas trop, mais l'année prochaine, déjà, on aura un premier aperçu. Et puis voilà, 2024, avec l'Alpine en piste, ça sera magique.
Et toi, ça sera pour de bon la dernière question. Toi, tu auras 40 ans, Nico, en 2024. Tu seras frais et dispo.
Écoute, ça dépendra de mes performances en piste, clairement. Moi, comme je t'ai dit, mon rêve, c'est de remporter les 24 heures du Mans, clairement. Hein. Aujourd'hui, je suis en pleine possession de mes moyens. Je prends beaucoup de plaisir à rouler. Je suis encore bien dans le match. Donc, tant que c'est le cas, moi, je continuerai à rouler. Après, voilà, l'avantage, c'est qu'en endurance, bah, l'expérience, elle est quand même importante. La gestion des pneus, la gestion de l'essence, tout ça, c'est des points qui sont super importants. Et puis que l'expérience rend plus facile. Donc, voilà, tant que je peux continuer, je le ferai. Mais je saurais tirer ma révérence quand il sera temps. Mais c'est vrai que là, le projet Alpine est assez simple.
Oh, merci beaucoup. On va te
Merci
souhaiter
à
bonne
tous.
chance pour la course, même si pour être tout à fait honnête, on a reçu aussi Sébastien Buemi et on lui a souhaité lui aussi bonne chance. Hein, donc
Le meilleur gagne.
on triche pas. Voilà, exactement. Que le meilleur gagne. Faites-nous une belle course. Faites-nous un beau scénario. Et puis oui, il y a une Marseillaise dimanche à l'arrivée, on n'aura rien de contre.
Ça marche. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci beaucoup, Nicolas. Voilà donc pour tout ce qui concerne l'endurance et ces 24 heures du Mans qui vont nous tenir en haleine tout au long du prochain week-end. Mais il n'y a pas que de l'endurance le week-end prochain, il y a aussi un petit peu de Formule 1. Et oui, quand même, on va revenir sur cette saison 2022. On a fait 7 Grands Prix sur les 22 au programme cette saison, autrement dit un petit tiers de saison. Et on s'est dit que c'était peut-être le moment avec Stéphane quand même de faire un premier bilan. Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? On va se concentrer d'abord, Stéphane, si tu le veux bien, sur les 3 gagnants qu'on a identifiés pour ce premier tiers de saison. Il y en a d'autres, mais bon, il faut bien se limiter un tout petit peu. Les 3 gagnants pour nous, Red Bull, Kevin Magnussen, Alfa Romeo. À tout seigneur, tout honneur, on commence par Red Bull. Red Bull, pourquoi est gagnant à nos yeux, leader du championnat pilote avec
Max Verstappen
et du classement des constructeurs. On peut même presque dire que c'est carton plein pour les hommes de Christian Horner, à qui on promettait des difficultés parce qu'ils se sont vraiment investis jusqu'au bout dans la saison 2021, pendant que d'autres travaillaient déjà pour 2022. Bah, finalement, après 7 Grands Prix, ils sont déjà devant.
Ils vont viser pour la première fois le titre constructeur depuis 2013.
Ouais, c'est ça.
Donc ça peut être le carton plein, effectivement. Et là, on leur promettait l'enfer cette année, une voiture à court de développement. Bah, pas du tout. C'est un petit peu ce qui surprend. Mais bon, le sorcier Adrian Newey est toujours là, même si officiellement, il n'est pas le directeur technique. C'est bien lui qui a la main sur tout ça et qui sait encore comment est-ce que on invente une voiture autour d'un nouveau règlement, malgré des limitations budgétaires, des temps de soufflerie limités, etc., la contrainte du Covid. Enfin, quelque part, c'est quand même lui le grand gagnant de tout ça. Surtout si on le met en opposition par rapport à ce qui se passe chez Mercedes. Et même si Ferrari aussi a passé un step, mais ça, on en parlera un petit peu après. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quand même la surprise, quoi. Clairement, ils sont au top. Ils sont là et je ne les pensais pas à ce niveau-là. Surtout qu'en plus, ils ont pris en charge tout ce qui est exploitation du moteur. Même si c'est encore Honda qui sait comment est-ce qu'il fonctionne, mais ils ont pris à leur charge tout ce qui est batterie, récupération d'énergie, etc. Ils ont commencé à rapatrier, je dirais, à Milton Keynes des éléments, des choses importantes du fonctionnement du moteur.
Ah, ça fait beaucoup de travail en plus, c'est clair. Alors, il n'y a pas de surprise du côté de Max Verstappen, champion du monde en titre et qui est encore très très fort, hein, le Néerlandais qui en est à 4 victoires en 7 Grands Prix cette saison. La recrue finalement supplémentaire cette saison, c'est le Sergio Pérez qu'on attendait peut-être pas, qui avait été plutôt bon l'année dernière pour sa première année sous les couleurs de Red Bull. Je me demande si on n'a pas là tout simplement le meilleur Sergio Pérez qu'on a jamais vu en Formule 1, vainqueur en plus à Monaco. On l'a re-signé, tu nous avais dit la semaine dernière dans les fous du volant que de toute façon c'était juste une question de temps mais que c'était fait.
C'est un secret de polichinelle, oui.
Ça y est, c'est fait. J'ai envie de dire, ils sont d'autant mieux chez Red Bull que en plus maintenant ils ont ça reste un deuxième pilote, mais un deuxième pilote qui est capable de gagner des grands prix. Et ça, c'est finalement pas arrivé depuis longtemps chez Red Bull.
Bah, en fait, Gilles, tu te souviens quand même qu'il avait été très très précieux l'année dernière contre Hamilton pour faire le jeu de Max Verstappen. Et là, c'est plus que ça quand même. C'est qu'il arrive à gêner les deux Ferrari régulièrement. C'est autre chose. Il avait fait un super job à Abu Dhabi aussi. Ça avait beaucoup compté. Mais là, il est présent tout le temps, même s'il est régulièrement battu en qualif. Mais il arrive à mettre la pression. C'est quelque chose de nouveau. Ça lui a valu un nouveau contrat. Apparemment, son contrat est passé de 5 à 7 millions d'euros. Sur son fixe avec 3 millions de bonus. Apparemment, ça, ce sont les détails. Donc, une petite revalorisation. Et surtout, Pérez, il était re-signé depuis des années et des années avec des contrats d'un an simplement. Et là, on lui offre un contrat de 2 ans.
Il y a une forme de reconnaissance.
Ce que Marco lui avait toujours refusé jusqu'à présent. Il a passé un step aussi par rapport à ça. Il a aussi, au passage, éliminé, je dirais, Gasly, qui ne reviendra pas chez Red Bull. C'est une double victoire. On avance là maintenant tranquillement chez Red Bull. Et puis, si Red Bull est en tête du championnat constructeur, c'est bien grâce à lui. Donc, tout ça, c'est assez logique, je dirais. Et Pérez, oui, il nous fait peut-être même mentir, Gilles, parce qu'on avait regardé un petit peu les duos de pilotes en début de saison en disant quelle équipe a le meilleur duo de pilotes. Et on ne pensait pas à Red Bull comme ça. Et maintenant, on a 2 super pilotes. Je dirais qu'ils sont complémentaires, qui ne sont pas exactement du même niveau, mais Ben Red Bull a tout ce qu'il faut maintenant pour aller très très loin. On est revenu un petit peu aux années Vettel-Weber.
C'est pour ça que je te disais, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas deux pilotes, parce que je pensais justement à ça, avec toutes les difficultés que ça peut avoir, d'avoir deux pilotes qui maintenant peuvent prétendre aux victoires. Ça sera la suite de la saison qui nous le dira. Parmi les autres grands gagnants, et alors là quand même c'est une belle surprise, Kevin Magnussen, qui ne devait même pas être là au départ de cette saison. La crise, la guerre en Ukraine, pour dire les choses, ont exclu Nikita Mazepin de l'échiquier de la Formule 1. Haas a rappelé Kevin Magnussen. Et là, c'est la surprise du chef. Magnussen monte dans une Haas qu'on n'attendait pas et qui finalement est plutôt performante. Et voilà, après cette Grand Prix, le Danois, il est dixième du championnat au classement des pilotes. C'est une histoire incroyable.
On l'avait vu, il avait quand même pris beaucoup de poids quand il est revenu dans la Haas.
Oui. Hein,
il n'était pas en mode Formule 1, il s'est remis en mode Grand Prix très très vite.
Alors c'est pas que de sa faute, parce qu'en Indy, il n'y a pas la direction assistée, donc il faut prendre de la masse musculaire. Bon, il n'y avait pas que du muscle dans Kevin Magnussen, oui. Mais il s'est refait un corps d'athlète, hein, ça y est, c'est fait.
Exactement, et sur la première course, il rentre 10 points de la cinquième place, donc tout de suite là, il marque son territoire. Par rapport à Mick Schumacher, donc on voit qu'il est là. Bon, après, ça s'est un petit peu moins bien passé. Il était moins dans une situation de choper des grands points. Il y a eu des problèmes aussi de fiabilité.
Il y a eu un petit peu moins de réussite, ouais, aussi, c'est
exactement,
vrai.
Exactement, on sait qu'il est là quand même. Et je trouve que c'est quelque part un petit peu rassurant, parce qu'on a tendance à faire rentrer en Formule 1 des pilotes payants. Je pense à Guan Yu Zhou, etc. Des gens qui ont du talent, hein, mais il y a des gens qui ont de la valeur. Et quand on leur donne une bonne voiture, on les retrouve. Donc c'est quand même assez intéressant. Romain Grosjean est parti maintenant définitivement en IndyCar. Et puis Magnussen, je dirais aussi, il y a quelque chose qui m'a plu aussi, c'est qu'il a exprimé des regrets par rapport aux commentaires qu'il avait fait.
Qui était un peu désobligeant par rapport à la Formule 1.
Assez vulgaire, je dirais. Et puis, à l'endroit de Nico Hülkenberg, quand il l'avait gêné, il avait des mots quand même assez grossier, on va dire. Il a regretté aussi ça. Il avait dit qu'il le regrettait tous les jours. Donc, on l'a vu maintenant résistant, défensif, un petit peu le mauvais Magnussen, celui qu'on n'aime pas. Et je trouve qu'il fait beaucoup moins d'histoire cette année. Comme quoi, finalement, on peut revenir avec de bonnes intentions et être quelqu'un d'autre. Et moi, maintenant, je l'aime bien, Magnussen, comme ça. Autant, il m'avait déçu sur la première période. Bon, enfin, c'est son deuxième retour, hein, mais retour réussi.
Exactement. Alors, il a pas marqué de points depuis 3 Grands Prix, mais il faut quand même reconnaître que c'est une des belles histoires de cette saison 2022. L'autre belle histoire,
oui.
Stéphane, chez les gagnants, c'est notre troisième, ce sont nos troisièmes nominés, parce que c'est l'équipe Alfa Romeo dans son ensemble. 9e du classement constructeur la saison dernière, c'est-à-dire avant-dernier, juste devant Williams. Ils sont, après 7 Grands Prix, les hommes de Fred Vasseur, les hommes et les femmes d'ailleurs, ils sont cinquièmes au classement des constructeurs cette saison, avec deux éléments forts. D'abord la bonne pioche d'avoir récupéré Valtteri Bottas, qui est plus motivé que jamais après cette fée évincée de chez Mercedes. Et puis, cette Alfa Romeo 2022, elle marche beaucoup mieux que ce à quoi on pouvait s'attendre.
Oui, alors j'aurais même pu faire une petite transition par rapport au sujet précédent, Magnussen, qui pilote en fait une voiture faite par Simone Resta, qui est un ancien de chez Sauber, oui, Alfa Romeo, oui, qui est parti chez Ferrari pour dessiner la Haas. Et en fait, Fred Vasseur, le directeur d'équipe d'Alfa Romeo, eh bien en fait a promu Yann Monchot, le franco-allemand, pour faire cette voiture qui fonctionne très très bien. Et là, c'est là qu'on voit qu'il y a des équipes qui sont très très bonnes pour faire des très bonnes choses avec un budget limité. Et ça, on le savait. Dans des écuries comme Force India, comme Racing Point, on a des designers qui savent très bien faire avec un budget limité, alors que d'autres équipes sont toujours sur le devant de la scène par la force de l'argent, on va dire. Et là, on a un petit peu rééquilibré les choses.
Le
et
fameux
on voit,
budget cap, hein,
tout à fait.
Les incidences du budget cap.
Et on voit rejaillir en fait des très bons directeurs techniques qui savent très bien travailler dans un périmètre, je dirais, limité. Et Fred Vasseur, il a tout bon, parce que ce directeur technique, Yann Monchot, il est le seul à avoir fait une voiture au poids en début d'année, alors que les autres étaient 10 kilos au-dessus. On pense à Red Bull en particulier. Donc ça, c'est un vrai enseignement. C'est des super designers qui sont dans l'ombre. Et puis Bottas, effectivement, il est un petit peu libéré. Alors, Il a fait quelques bêtises quand même, je pense, à Miami. Il laisse passer les Mercedes. Donc on retrouve un petit peu le Bottas qu'on connaissait. Mais franchement, il est un petit peu revigoré. C'est vrai que ça nous fait un petit peu plaisir pour lui. Parce que
et pour se rattraper de l'année dernière, il n'avait pas toujours laissé passer Hamilton quand il fallait.
Il en a pris plein sur la tête, effectivement, les années passées. Mais tout ça, ça fait un bon petit package. C'est vraiment sympa. Ça fonctionne bien. Et moi, je dis, franchement, ça montre que Fred Vasseur est un super directeur technique.
C'est important.
Un directeur d'équipe.
C'est important d'avoir, dans une période où on met en place un budget cap, un bon patron d'équipe. Ça fait gagner, ça fait économiser de l'argent aussi. Et on le voit bien chez Alfa Romeo.
Et Alfa Romeo, tu disais, cinquième du championnat constructeur, ça leur est pas arrivé depuis 2002. T'imagines, donc 20 ans.
Ouais, exactement. Alors, puisqu'on parle des gagnants, il y a forcément des perdants. Les plus grands perdants à nos yeux, Mercedes, évidemment, hein, c'est une évidence. Daniel Ricciardo. Et puis Mick Schumacher. On commence par Mercedes, qui est resté sur 8 titres constructeurs consécutifs, hein, quand même la firme à l'étoile. On a fait 7 premiers Grands Prix, pas de pôle, pas de victoire. Et en fait, au-delà de savoir s'il y a des pôles et des victoires, en fait, Mercedes ne pèse pas dans cette saison 2022, n'existe pas presque dans cette saison 2022, 101 points de retard au classement des constructeurs par rapport à Red Bull. Un Lewis Hamilton transparent, parfois désorienté. Alors, on a vu des choses intéressantes hein, aussi, notamment en Catalogne. Inquiétant. Et on espère qu'il revienne. On a vu, on en a parlé il y a 15 jours, il y a des choses intéressantes. Mais Mercedes est l'équipe là, qui a le plus perdu de son lustre. Tu as un terme que tu as employé lorsqu'on préparait ce podcast que j'ai beaucoup aimé. Le déclassement.
C'est exactement ça. Et alors, quand tu faisais la comparaison par rapport à l'année dernière, ils ont pris en fait cette année la place qu'avait Ferrari l'année dernière. Tout simplement, ils n'y arrivent pas. Ils sont troisième, loin derrière les deux premiers et une bonne longueur aussi devant tout le groupe des écuries Challenger. C'est ce que dit Toto Wolff, ils sont dans un no man's land. Et alors, ce qui est un petit peu inquiétant, parce que nous, on avait fait un commentaire, je dirais assez optimiste, après le Grand Prix d'Espagne, on s'est dit, ça y est, ils se sont peut-être débarrassés du marsouinage, en tous les cas dans les lignes droites, pas dans les virages, les grands virages, les courbes rapides. Et puis, patatras, là, ils sont retombés dans leur travers à Monaco.
J'y crois encore parce que Monaco,
oui,
c'est vraiment
piste
bizarre.
Assez spécifique, mais chez Mercedes, on dit, à Bakou, ce week-end, on devrait retrouver cette voiture qui marsouine encore comme elle marsouinait. À Monaco, donc inquiétant, ce qui veut dire que le débat sur le changement de concept n'est pas complètement fermé. Ils peuvent encore revenir sur le fait de continuer de pousser dans cette direction-là pour la voiture de 2023. Donc, il n'y a rien qui est résolu, c'est complètement inquiétant. Hamilton avait dit à Monaco, c'était l'enfer, j'avais jamais une voiture comme ça et j'en ai assez,
alors,
surtout.
Tu veux que je te dise, ce qui m'inquiète le plus, c'est que finalement, on avait vu des choses intéressantes à Barcelone, et depuis, Toto Wolff n'a en tête qu'une seule chose, c'est en gros de faire sauter le budget cap, parce qu'on a dépensé déjà beaucoup d'argent chez Mercedes pour essayer de rattraper le temps perdu avec cette voiture qui était mal née. On ne sait pas comment on va pouvoir se tenir à l'enveloppe initiale du côté de chez Mercedes. Et en gros, Toto Wolff, il est parti en guerre pour dire, maintenant, avec l'inflation qui est partout, hein, qui touche tous les pays, on ne pourra pas tenir cette enveloppe. Pendant ce temps-là, l'énergie qu'il met là-dedans, il ne la met pas à soutenir son équipe pour continuer à essayer de trouver de nouvelles pistes pour faire progresser l'auto. Et j'espère que ça ne passera pas. Parce qu'il y a des équipes, on les a citées, et qui ont très bien travaillé, comme Alfa Romeo. Et si d'un seul coup on redonne la possibilité de dépenser plus, on efface en fait tout l'intérêt de ce qu'on a fait chez ces équipes-là.
Christian Horner, Toto Wolff nous explique qu'il découvre en ce moment
la valeur de l'argent. Eh oui.
Et puis l'augmentation des coûts avec l'augmentation en fait des matières premières.
Mais c'est la même chose pour toutes les équipes.
Otmar Szafnauer a dit, donc le directeur d'équipe d'Alpine, il a dit que Alpine avait fait fin 2021 son budget 2022 en fonction déjà de l'augmentation des prix qui était connue. Donc c'est un faux argument que nous avance Red Bull, Ferrari et Mercedes là-dessus. Et il faut s'y tenir, il n'y a pas de problème. Et je dirais même que ce budget cap, là déjà, ils vont avoir une tolérance de 5% par rapport à ça. Donc on les autorise à dépasser. Alors Christian Horner nous explique que ils vont tous dépasser ces top teams de 5%, et que ce n'est pas très grave, c'est un petit dépassement qui ne sera pas sanctionné. Et maintenant, ils cherchent un gros dépassement.
Voilà, là,
ça
ne
passe pas, ça ne va pas du tout. Donc,
mais à la rigueur, pour Christian Horner, c'est un problème moindre parce qu'il est en tête du championnat des constructeurs. Pour Toto Wolff, je rappelle qu'on parle de Mercedes grand perdant de ce début de saison. Pour Mercedes, il faudrait dépenser encore plus parce qu'on a du terrain à rattraper sur les autres.
Mais,
et que je trouve ça très très inquiétant.
Mais surtout, c'est qu'ils n'ont pas fait de casse. Chez Red Bull et chez Mercedes, ils n'ont pas cassé les voitures. Mmh. Et chez Ferrari, pas tellement, un petit peu avec le Sainz. Ouais. Mais franchement, ça veut dire que là, ils n'ont pas d'argument. Ils prennent rendez-vous avec la FIA pour dire « il y a un problème, il faut nous aider ». Non. C'est pas comme ça que ça marche, point. Et je dirais que s'il y en a qui peuvent dépenser, qui pourraient dépenser un petit peu plus dans un système un petit peu égalitaire pour donner une capacité de rattrapage, c'est aux petites équipes.
Exactement.
On leur donne plus de temps de soufflerie, des choses comme ça. Mais Fred Vasseur a dit, mais si vous voulez vraiment arrêter de dépenser, fermez la soufflerie.
Éteignez les souffleries, c'est clair.
Tout à fait, parce que c'est ce qui coûte maintenant de l'argent, parce qu'on ne peut pas réduire sur tout ce qui est acheminement, etc. Ils sont en train de dire que c'est l'acheminement en fait du matériel, des voitures sur les grands prix sont lointains, qui sont coûteux. Oui, bon, bah, d'accord, mais ça, c'est, il y en a d'autres qui savent faire.
Le deuxième perdant dans notre classement, c'est Daniel Ricciardo, hein, 11e du championnat des pilotes, l'Australien, avec un total de 11 points, à comparer donc à son coéquipier chez McLaren, Lando Norris, qui lui est 7e du championnat, avec 48 points, plus de 4 fois le nombre de points de l'Australien. Alors, pendant longtemps, Zak Brandt ne s'est pas exprimé sur le sujet. Bah, une fois qu'il y est allé, ça a été assez clair. Hein. Il y avait déjà eu quelques déclarations avant Miami où on avait compris que ça commençait à l'agacer. Depuis, Zak Brandt, il a dit plus ou moins clairement d'ailleurs, hein, que bon, bah voilà, on cherchait à se séparer de Daniel Ricciardo dès la fin de cette saison, alors qu'il y a un contrat en 2023.
Mais surtout, c'est qu'il s'est exprimé sans qu'on lui pose vraiment la question. Donc, il voulait vraiment ça sur la table, mettre ça sur la table, mettre la pression sur Ricciardo pour le mettre devant ses résultats insuffisants. Et Ricciardo lui a dit, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. C'est clair. Ricciardo a parlé de négociations cet été. Et c'était peut-être un peu un lapsus parce que quand Zak Brandt dit que les résultats sont insuffisants, il a un contrat encore avec des clauses des deux côtés, des clauses de résultats. Si la voiture chez McLaren, si la McLaren n'est pas assez performante, le pilote peut dénoncer son contrat. Si le pilote n'est pas assez performant, McLaren peut aussi casser le contrat. S'il y a des choses comme ça, c'est assez courant, clairement. Mais Zak Brandt veut être sûr, je pense, de pouvoir casser le contrat, quitte à payer un dédit à Ricciardo.
Oui, ça va se négocier, en fait.
C'est ça.
Ça va se négocier.
Il cherche une négociation pour sortir de ça, parce que ça fait un an et demi maintenant qu'il essaye. Ricciardo, et qu'il ne,
ça marche pas.
Il n'arrive pas à et se défendre.
Non seulement ça ne marche pas, mais on a même le sentiment que c'est de pire en pire, que l'écart se creuse entre Daniel Ricciardo et Lando Norris. Et ça, Zak Brandt, il peut pas le supporter.
Mais il a des ambitions. Là, il est en train de voir qu'il va perdre sa troisième place au championnat constructeur. Il a un plan pour gagner régulièrement, pour gagner le championnat du monde. Ce n'est pas comme ça qu'il va y arriver. Donc effectivement, et c'est plus maintenant, on le sait quasiment, avec Ricciardo. Donc il a envie de passer à autre chose. Et Ricciardo, même, je ne vois pas ce qu'il pourrait faire. Après, j'ai une petite idée, mais ça va être compliqué, oui.
Ça va être compliqué, effectivement, pour Daniel Ricciardo. Bah justement, on va parler d'un autre pilote pour qui c'est compliqué. Et je vois où
oui,
tu veux en venir,
voilà.
Pour Daniel Ricciardo. On va parler de Mick Schumacher, qui était arrivé donc en 2021 avec un nom très lourd à porter en Formule 1, qui n'est pas dénué d'atouts. Hein. Quand on s'appelle Schumacher, c'est sûr que ça peut éventuellement aider, mais il faut le porter en même temps. Il était arrivé en 2021 avec une bonne approche, j'ai trouvé. Il n'était pas arrogant du tout, très
non.
respectueux. Il a fait ses preuves. En tout cas, il a fait une première saison où il a dominé son coéquipier, qui était Nikita Mazepin, mais finalement, on se dit que c'était un petit peu un faux ami d'avoir Nikita Mazepin en coéquipier. Et depuis que Kevin Magnussen est arrivé à la place du Russe, ben, il n'y a plus photo. Et les résultats, on le voit, sont quand même insuffisants pour Mick Schumacher. Il a un contrat avec Haas qui court jusqu'à la fin de cette saison 2022. Est-il légitime, Mick Schumacher, pour prétendre à un nouveau contrat en Formule 1, que ce soit chez Haas ou chez une autre équipe? J'ai envie de dire, ça ne me paraît pas automatique, loin de là.
Ouais, et quand je te disais que j'avais une petite idée sur ce que pouvait faire Ricciardo, moi je pense que son manager a peut-être même déjà pris contact avec Haas, parce que c'est une bonne voiture qui lui permettra encore d'obtenir des résultats en Formule 1, tu peux viser régulièrement la Q3, les gros points. Donc c'est ça qui compte aussi. Et si Ricciardo a encore envie de prouver quelque chose en Formule 1, tu n'as pas 36 solutions. Tu vises le volant de la Haas parce que toutes les autres portes sont quasiment fermées, à part, bon, je sais pas, Williams. Mais autrement, c'est fermé à double tour. Un retour chez AlphaTauri, ça n'a pas beaucoup de sens. Les top teams s'intéressent plus à lui. Donc Ricciardo serait bloqué. On sait que Gasly s'intéresse à son volant. Enfin, logiquement, hein, c'est ce qu'on comprend. Voilà. Et Mick Schumacher, effectivement, il a un contrat d'année en année. Et là, maintenant, Gunther Steiner se dit de plus en plus ouvertement impatient de le voir obtenir des résultats, décoller enfin. Mais moi, je vois en Mick Schumacher le pilote qu'il était l'année dernière. C'est académique, on va dire, qu'il est assez scolaire. Il sort pas, c'est pas de sa zone de confort, mais de ce qu'il sait faire. Il ne nous surprend pas.
Ouais, presque trop respectueux, en fait, Mick Schumacher. On aimerait bien aussi, de temps en temps, avoir le côté un peu de son père qui renversait la table avec un talent énorme. Il n'y a peut-être pas tout à fait le talent chez le fiston. Mais voilà, il manque quelque chose. Et là, pour l'instant, ça ne justifie pas sa présence en 2023 en Formule 1.
Et il y a quelque chose qui est un petit peu étrange, d'ailleurs, c'est qu'on a l'impression qu'il fait de la Formule 1 en attendant qu'il y a un volant chez Ferrari qui se libère parce qu'il pense que c'est sa destinée.
Oui, mais pour
c'est
ça,
quelque
faut
chose d'automatique. Tout à fait. Et ce garçon appartient à la Ferrari Driver Academy. Alors, c'est une sorte de centre de formation, on va dire, où il y a des super coachs qui sont là pour l'aider. On l'a fait rouler en essai. On développe un petit peu ses capacités. Alors, je ne sais pas si réellement, depuis le début, Ferrari s'est dit, il roulera avec nous un jour, parce que quand on le fait rentrer dans un processus comme ça, on ne peut pas lire à l'avance en disant dans 2, 3, 5 ans, ce sera notre pilote. Donc j'ai plus l'impression que c'est un petit peu l'entourage de. Et puis son histoire, Mick Schumacher, qui a poussé un petit peu pour appartenir à cette académie, que réellement Ferrari qui l'a mis dans cette dynamique. Mais lui, il croit. Mais je ne vois pas où ça peut le mener pour l'instant.
Bah, qu'il y croit, ça me paraît normal. Maintenant, il faut qu'il en fasse la démonstration.
Il faut le mériter.
Et là maintenant, il a, allez, on va dire, deux tiers de saison pour y parvenir. Alors, vous aurez noté, on a parlé des gagnants, on a parlé des perdants et on n'a pas parlé de Ferrari là-dedans. Bah, parce qu'en fait, on ne savait pas où les mettre, Ferrari. Honnêtement, ils sont en fait dans une sorte de no man's land entre les deux, avec en fait du plus et du moins. Le plus, on commence, bah, c'est un Charles Leclerc finalement. Alors, c'est pas beau comme mot, titrable. Hein, parce que c'est pas la même chose entre être un pilote qui cherche une opportunité pour s'illustrer durant une saison, puis quand il y a une possibilité, hop, on fait un cours, on fait un podium, on va chercher une victoire, et puis d'un seul coup, devoir être là tous les week-ends pour jouer les pole positions, pour jouer les victoires en Grand Prix. Ça, maintenant, on a vu que Charles Leclerc, il avait fait la démonstration qu'il était capable de jouer aux avant-postes, il a fait une série de pole positions remarquables, il a quand même perdu quelques victoires à cause soit de défaillances mécaniques, soit à cause de défaillances stratégiques de son équipe. Voilà. Mais il est passé au cap de pilote titrable. On est d'accord ?
Ah ben complètement. C'est ce qu'il attendait. Il avait été coupé en son élan fin 2019 avec cette histoire de moteur qui était non réglementaire. On va dire, Ferrari voilà,
avait
on
négocié
pas dire trop fort, voilà. Mais bon, il y a une petite tricherie de ce côté-là et ils ont été obligés de se remettre dans le cadre réglementaire par la FIA. On sait ce que ça leur a coûté. Je pense maintenant qu'on l'a entendu particulièrement en colère quand même. Ça, c'est rare Monaco.
Ah, il est sorti
ça voulait dire beaucoup.
Ouais,
tout à fait.
Ouais,
tout à fait. C'est-à-dire que là, c'est. Et il a dit qu'il ne faudra pas que ça recommence parce que ça voudrait dire que si on prend deux ou trois jokers comme ça dans l'année, on se sort presque automatiquement de la course au titre parce qu'à côté.
C'est du sabordage, en fait.
Voilà,
c'est du sabordage.
Il y a zéro faute du côté de chez Red Bull. Et Horner l'a dit d'ailleurs. Ferrari, par instinct, se trompe. Dès qu'il faut aller sur sentir un petit peu quelque chose, Helmut Marko, le conseiller de Red Bull, a dit « sentent pas les coups ». C'était à peu près ça.
Voilà, parce pour une fois, c'était presque ça.
Ils ont perdu cette culture de se battre tous les week-ends pour un championnat. Donc, il faut qu'ils se remettent un petit peu là-dedans.
C'est-à-dire que Charles Leclerc est titrable, son équipe peut-être pas encore tout à fait.
Exactement,
c'est
ça.
C'est là-dessus qu'il faut.
Et manque de soutien d'un deuxième pilote régulier.
Eh bien, justement, c'est ce qui contrecarre un petit peu le côté gagnant de Ferrari, qui se retrouve avec un pilote qui a fait ses preuves en tant que pilote qui peut briguer le titre. Eh bien, c'est Carlos Sainz, hein, qui, après une première saison l'année dernière où on l'avait vu, plutôt intéressant sous les couleurs de Ferrari, avec une voiture qui était vraiment en difficulté, là, cette année, c'est compliqué. Il y a eu des sorties de piste. Il y a maintenant un problème de confiance. Alors, il y a eu le podium là, à Monaco, très bien, mais on attendait plus de Carlos Sainz chez Ferrari et il n'a pas donné finalement toute la valeur ajoutée qu'on attendait de Carlos Sainz. Alors, on l'a quand même re-signé pour les prochaines saisons, mais Carlos Sainz doit donner plus.
Il tapait souvent quand même aux essais, mais à Monaco, ça s'est bien passé. Il assure la deuxième place qu'il remet au championnat. Je crois qu'il a 83 points, donc c'est pas mal. Il doit avoir les 75% des points à peu près de Leclerc. Donc c'est tout à fait correct, mais je dirais qu'il est battu 7 fois sur 7 en qualif. Mmh. Et c'est ça l'énorme problème. Et on en revient toujours à la même chose. Ferrari l'a signé trop tôt, moi je pense. Il n'y arrive pas avec cette voiture. Et... Ferrari ne peut plus dire qu'ils ont le meilleur binôme. C'est pas vrai, c'est archi faux. Et quand on voit un garçon comme Gasly qui cherche un volant pour l'année prochaine ou une porte de sortie pour les années de l'après AlphaTauri, on regrette qu'il ait signé aussi vite parce qu'il n'a pas. Sainz, il n'a pas signé pole position. Il n'a jamais gagné en Grand Prix. On a l'impression qu'il devient un petit peu l'éternel espoir de la F1. C'est un petit peu inquiétant pour une écurie de ce calibre. Et je trouve qu'il revient un petit peu là où on l'avait placé, c'est-à-dire qu'il a peut-être un peu surperformé, ou alors c'est Leclerc qui n'était pas dans son élément
l'année dernière.
Qui a fait qu'on a cru que Sainz était devenu un top pilote. J'en ai jamais été convaincu, et là il revient un petit peu à son rôle de numéro 2, je dirais, qui fait un petit peu des sinusoïdes comme Bottas.
Alors, c'est rare de citer, de parler de sinusoïdes dans un podcast consacré au sport mécanique. Bravo Stéphane. Le dernier point, évidemment, c'est l'opérationnel chez la Scuderia. Le fiasco stratégique de ce Grand Prix de Monaco, ça fait partie des éléments contre lesquels il va falloir absolument intervenir du côté de la Scuderia si on veut aller jusqu'au bout et emmener un Charles Leclerc au titre.
Oui, je me souviens, c'était du temps de Schumacher, il y avait eu quelques loupés comme ça qui se payaient, mais très très cher. Ils avaient remercié Baldisseri, qui était le stratège magique des années Schumacher. Il y a une fois, il s'est trompé, il sentait plus trop les choses et on l'a dégagé tout de suite, quoi. Alors, on peut peut-être se poser la question, est-ce qu'il ne manque pas un stratège? Est-ce que ce n'est pas le dernier élément qui manque chez Ferrari? Parce que quand on se loupe à ce niveau-là, quand même, on peut peut-être faire les choses différemment et on sait que dans d'autres équipes, on travaille très bien, on sent bien les coups.
Eh oui. Là, ils sont face au maître en la matière, hein, du côté de chez Red Bull. Ils sont absolument redoutables. Voilà donc succinctement, hein, parce qu'on pourrait en parler très très longtemps, les gagnants et les perdants de la Formule 1 après le premier tiers de la saison. Dans quelques jours maintenant, il y aura donc le 8e Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, toujours très spectaculaire. La première séance d'essais libres aura lieu vendredi, je crois que c'est à 9h30. Ensuite, les qualifs samedi à 16h, le Grand Prix lui est dimanche à 13h. Les 24 heures du Mans, quand même sur Eurosport 2. Le départ est à 16h et ensuite vous touchez plus à rien jusqu'au dimanche 16h en intégralité sur Eurosport 2 ou aussi sur l'application Eurosport, sur le site eurosport.fr où vous pouvez aussi éventuellement aller chercher ce podcast. Podcast que vous pouvez retrouver aussi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez directement les nouveaux épisodes sur votre smartphone. Stéphane, je ne sais pas comment on va faire pour survivre à ce week-end de Formule 1 de 24 heures du Mans. Je te souhaite de passer un bon week-end et puis on se retrouve pour le prochain numéro des Fous du Volant. Et puis d'ici là, on coupe le contact.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.